Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. C'est aujourd'hui le dimanche de Pâques, le jour des œufs en chocolat pour les jeunes, mais c'est aussi une fête chrétienne, une fête mise à profit par des adultes pour se faire baptiser. À quelques heures maintenant de la grève des cheminots, le ton monte. Guillaume Pépi parle de la fermeture de lignes. La ministre Elisabeth Borne fustige l'attitude des syndicats. Seuls les autocaristes se frottent les mains, vous l'entendrez. Parmi les nouveautés de ce 1er avril, l'entrée en vigueur d'une norme européenne pour l'obligation de la mise en place d'un boîtier d'appel d'urgence dans les futures voitures, un dispositif destiné à sauver des vies. Côté sport, le PSG s'est imposé une fois de plus devant Monaco, battu 3-0 en finale de la Coupe de la Ligue de football. Rendez-vous dans le Journal des Sports présenté par Xavier Monferrand à la fin de cette édition. Nous sommes donc ce 1er avril, le dimanche de Pâques, synonyme pour tous les enfants de la fête du chocolat et donc de la chasse aux œufs. Quelques 14 000 tonnes et demi de chocolat ont ainsi été consommées l'an dernier par les Français le week-end pascal. Mais Pâques, c'est aussi une fête religieuse, la plus importante pour les chrétiens du monde, puisqu'elle commémore la résurrection du Christ. L'occasion pour de nombreux croyants ayant atteint l'âge de la majorité de prendre la décision de se faire baptiser. Ils vont ainsi être plus de 4 000 cette année en France à faire le choix de ce sacrement ce week-end de Pâques. Un choix fait notamment par Charlotte Gall en compagnie de 12 autres croyants dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. Un reportage de Manon Klein de France Bleu Belfort.
Le baptême, ça fait des mois que Charlotte s'y prépare. Alors aujourd'hui, elle est impatiente et même un peu stressée.
J'y pensais pas trop. Et là, cette nuit, j'ai fait un peu des rêves bizarres sur le baptême et tout. Et là, je stresse un petit peu. C'est du bon stress, hein, mais j'appréhende. C'est vraiment ça y est, j'y arrive.
Charlotte a grandi dans une famille non pratiquante. Le baptême, ça fait depuis qu'elle est toute petite qu'elle y pense, mais elle saute seulement le pas à 33 ans et elle ne regrette pas d'avoir attendu.
C'est plus choisi. Même ma mère, qui est pas religieuse, m'a dit « Je trouve que ça a plus de sens quand on est adulte de demander, voilà, de choisir que quand on est enfant puis qu'on n'a rien demandé. »
Avant la cérémonie, Charlotte révise un peu comme avant un examen.
On a comme des fiches de lecture. Par exemple, là, il vient à notre rencontre où on a des passages de la Bible. On décortique un peu les textes parce que c'est vrai que les textes sont compliqués. Et on est à plusieurs, en fait. Ça fait vraiment comme un groupe de lecture.
Et Charlotte sera, en effet, baptisée en même temps que 3 autres adultes de son groupe. Et toute sa famille sera là.
J'ai la famille de mon compagnon qui viennent d'Argentine. J'ai ma mère qui n'est pas du tout croyante, qui vient avec mon beau-père et ma sœur. J'ai mon père qui vient du Sud avec sa femme. Enfin, j'ai tout le monde qui vient. Je suis vraiment très accompagnée et je suis étonnée.
Et même les clients de la salle de sport où Charlotte de travail lui ont envoyé des messages d'encouragement pour son baptême.
C'est aussi ce dimanche que le pape François prononcera en fin de matinée depuis la place Saint-Pierre à Rome la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, bénédiction qui devrait être précédée d'un message à l'intention des catholiques du monde entier.
Plus que quelques heures maintenant avant le début de la grève à la SNCF.
Grève qui, je vous le rappelle, est censée débuter demain lundi à 19h. Alors que la ministre des Transports Elisabeth Borne hausse le ton fustigeant un mouvement qu'elle juge incompréhensible, le PDG de la SNCF prévient d'ores et déjà qu'il y aura des lignes fermées en raison de cette grève perlée. Guillaume Pépi qui conseille aux voyageurs de décaler leurs déplacements ou bien alors de privilégier les transports alternatifs comme l'autopartage, le covoiturage ou l'autocar. Message reçu, la demande est ainsi en forte augmentation, notamment pour les autocars. Sandrine Etoandeg.
Comme avant la grève du 22 mars, le niveau de réservation a été multiplié par 3 par rapport à une période normale et est proche de celui des vacances d'été, détaille Hugo Roncal, directeur général du réseau d'autocars EasyLines.
On a anticipé depuis plusieurs semaines le phénomène, donc on a réservé de la capacité supplémentaire d'autocars et de conducteurs. Et donc c'est une capacité qu'on va mettre sur la route en fonction du taux de remplissage, en fonction des lignes. Donc on pourra doubler ou tripler le nombre d'autocars qui partent pour un horaire donné, pour une destination donnée.
Une demande que Drivey, le site d'autopartage numéro 1 en Europe, a aussi anticipé, selon Quentin Lestavel, le directeur France et Belgique.
En moyenne, on constate une hausse de l'ordre de 50% durant les périodes de grève. Et la demande est quasiment équivalente à un pic d'été comme le 15 août. Et en fait, on est capable d'y répondre avec nos 38 000 voitures disponibles partout en France.
Autre solution, le covoiturage. Il sera gratuit pendant la grève. La plateforme Île-de-France Mobilité propose la gratuité pour les passagers et le remboursement pour les conducteurs de 8 plateformes partenaires, dont celle de la SNCF sur les courtes distances. Si la demande des passagers est forte, la difficulté sera de trouver des conducteurs qui acceptent de prendre des gens à bord.
Enfin, selon une information révélée par nos confrères de France Info, la direction de la SNCF aurait décidé d'attribuer une prime à certains de ses cadres, prime selon les organisations syndicales, qui aurait pour but de les inciter à se porter volontaires pour conduire les trains les jours de grève. Nous y reviendrons dans le journal de 9h. Dans l'actualité de ce dimanche, également la mort d'un père de famille dans un accident de manège hier après-midi à Neuville-sur-Saône, près de Lyon. Ce manège, composé de 14 nacelles, s'est affaissé d'un coup, tuant ce père de famille éjecté et blessant 4 autres personnes. Le responsable du manège a été placé en garde à vue hier soir.
Alors que la situation semblait s'apaiser avec la Corée du Nord, et bien voilà que des manœuvres militaires font craindre une reprise des hostilités.
Oui, pourtant rien d'anormal. Les États-Unis et la Corée du Sud ont en effet choisi cette date du 1er avril pour entamer des opérations militaires conjointes, des manœuvres traditionnelles dans la péninsule coréenne qui avaient seulement été repoussées en raison des Jeux Olympiques d'hiver. Peu de manifestants hier le long de la frontière de Gaza avec Israël. Les Palestiniens qui pourraient revenir aujourd'hui ont en effet mis à profit cette journée de samedi pour prendre part aux funérailles des 16 manifestants tués la veille. De son côté, le Premier ministre israélien a tenu à féliciter hier soir ces soldats estimant qu'ils n'avaient fait que protéger la souveraineté et la sécurité de son pays.
Aujourd'hui, 1er avril, accompagné de ces traditionnelles nouveautés et des mouvements aussi.
Oui, des mouvements très légers avec une petite baisse du prix du gaz, 1% seulement, et une très légère hausse en effet des allocations familiales, 1% pour une famille avec 2 enfants, 1% encore d'augmentation pour la prestation accueil jeune enfant ou encore l'allocation adulte handicapé. Et puis parmi les nouveautés de ce 1er avril, et ce n'est pas un poisson, l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme européenne destinée à faire chuter de 4% le nombre des tués sur les routes. Une nouveauté qui concerne tous les automobilistes puisqu'à compter de ce 1er avril, les constructeurs devront faire équiper leur voiture d'un boîtier d'appel d'urgence, encore appelé e-call 112, ceci en vue d'obtenir l'homologation de leur voiture. Cela veut donc dire qu'à moyen terme, tous les automobilistes devront disposer de ce dispositif d'urgence dans leur voiture. Si l'appel d'urgence aboutira dans toute l'Europe via le 112 dans un service d'urgence, eh bien en France, c'est une plateforme qui recevra et gérera les appels, une plateforme mise en place par l'ensemble des sociétés d'assistance regroupées au sein de son syndicat national, le SNSA. Explication et précision de l'un de ses représentants, Pascal Paris.
Ça n'est pas un accessoire, c'est un équipement d'origine et il permet de déclencher un appel manuel au travers d'un bouton qui est à l'intérieur de l'habitacle, un bouton SOS. Et il permet également de lancer un appel automatique s'il y a une détection d'accident. Donc en l'occurrence, le déclenchement de l'airbag, par exemple, qui va déclencher l'appel automatique vers le dispositif e-call 112 pan-européen, ce dispositif étant un appel d'urgence publique. Et l'originalité, c'est qu'en France, ce dispositif est traité en fait en termes d'accueil des appels, de qualification, de filtrage et d'orientation par le Syndicat national des sociétés d'assistance au travers d'une convention d'habilitation avec le ministère de l'Intérieur. Ce qui permet d'alléger en fait les appels reçus par les services de secours, donc les pompiers, les SAMU et autres services de secours, en filtrant les appels d'urgence émis depuis les véhicules, en les qualifiant et en les orientant soit vers les services de secours s'il s'agit d'une urgence vitale ou si c'est un accident sur une autoroute, ou en les orientant vers l'assisteur de leur assureur s'il s'agit d'un accident sans gravité.
Et à noter pour tous les réfractaires que ce dispositif d'urgence ne déclenchera la géolocalisation GPS du véhicule qu'une fois l'appel d'urgence déclenché. Nous allons refermer ce journal par l'adaptation en dessin animé 3D de l'un des plus célèbres romans de Jack London, Cro-Blanc. Résultat, un superbe film, si j'en crois Jacqueline Petrose, déjà primé au Festival d'animation d'Annecy.
Nous t'appellerons Cro-Blanc.
Combat de chiens, attaque de lynx, individu cruel, assoiffé d'argent et à la mine patibulaire, les premières images sont plutôt effrayantes. Cro-Blanc, pourtant, reste un chien des plus attachants, loin de son statut de tueur. Résumer un roman aussi célèbre en un peu plus d'une heure vingt n'est pas si facile, mais Alexandre Espigard en a tiré l'essentiel. À travers l'amitié qui va unir Cro-Blanc au chef indien Castor Gris, puis au marshal Whedon Scott et sa femme Maggie, la leçon est très claire, l'homme n'a pas à forcer la nature. Cro-Blanc est l'ami de ceux qui recherchent la justice et l'harmonie.
Il paraît que c'est la terreur du Yukon, hein mon grand ?
Je croyais que c'était moi la terreur du Yukon.
Toi tu es un ange, vous êtes deux anges.
Ce film est très réussi en ce qui concerne Cro-Blanc, les animaux et la nature. Il y a de splendides moments où le dessin et la 3D nous laissent assez impressionnés. Du côté du dessin des humains, à mon goût, le trait un peu raide et les visages un peu trop taillés à la serpe manquent parfois de finesse d'expression. Mais cela ne gâche absolument pas au final l'impression de beauté, de grands espaces et de grands et beaux sentiments.
À toi de leur montrer qui tu es.
Et c'est à vous, Éric Delvaux.
Je tenais à vous féliciter, Serge Martin, pour votre livre sur l'œuvre de Kim Kardashian, qui est en train de devenir, par exemple, un best-seller.
J'ai eu peur.
Oui, mais je vous félicite et vous prendrez bien un petit peu de poisson d'avril.